וכל אחד מחליש את חברו, אוסתד ושקל נמחל, אפבלי לאות. ההנהגה, זה מהסמוד? ההנהגה, לקונדוית, הולכת שאין כל נפש מסוגלת לקבל כי נטייה אחד, et cette conduite, il faudrait peut-être dire là, ceux qui sont à la direction des affaires, ceux qui conduisent les autres, anhaga, mène à ce que chaque personne individuelle, comme nefesh, est incapable de ne reconnaître que, est capable de reconnaître que sa propre tendance. Alken, ifamim, yavo efsed, et c'est pourquoi, tant qu'on est dans ce stade-là, de temps en temps vient un deuil. Non. Ah, Efsed. Alken Ifamim, Yabo Efsed Moussari, de temps en temps apparaît un manque moral, Omadai, le fait de perdre quelque chose, Efsed, ou scientifique, Im Narmol, c'est-à-dire du côté des valeurs morales ou du côté de la connaissance. Im Narmol Leachnis, Shnei Netiyot Bevatach. Si nous travaillons à faire se rejoindre, mettre ensemble ces deux forces en même temps. Ça veut dire, tant que c'est le temps de la séparation, une tentative de les unifier de façon anticipée aboutit à un manquement. Aval, pardut amuka, mais la séparation profonde, halohi shoresh amachloket beIsraël, n'est-ce pas elle qui est la racine même des controverses, conflits, tensions en Israël. Alken afalpi shanavi diber beremes. Et c'est pourquoi, bien que le prophète avait parlé par allusion, mikol makom, malgré cela, Tirgem Yonatan ben Uziel, Yonatan ben Uziel avait décidé de traduire ce verset, vous rappelez le premier cours, de Gila davar yoter, et a dévoilé cette chose plus, beaucoup plus. Et c'est pourquoi le pays d'Israël avait été secoué dans toute son étendue. Qui, Kolzman, car pendant tout le temps, Shelur Shav Hado, où la génération n'est pas encore prête, les Hashvot Anetiot ou le Kolelam, pour faire égaler et ces deux tendances, et les intégrer, kolechad mirve mechavero, chacun est blessé par l'autre. Et tant que le temps n'est pas arrivé de cet amour réciproque, le fait de rapprocher ces deux tendances qui s'opposent, les fait s'opposer. Et donc chacun est blessé de la présence de l'autre. Mikol makom, itrazek, et bien que Yonatan ben Uziel savait cela, parler de cela, dévoiler le diagnostic de l'état de conflit risquerait de le renforcer, puisque c'est comme ça, alors c'est comme ça. Est-ce que c'est bien clair? Mikol makom, malgré tout, Yonatan ben Uziel a pris le courage vers Amar et il a dit, Galoui veyadouar lefanecha, en s'adressant à Dieu, tu sais très bien, chez l'olechboudi velolechvot betava asiti, que je n'ai pas fait cela pour ma gloire ou celle de ma maison paternelle, kim, chez l'olechboudi, Irgou Mahlotot de Israël. Mais afin, pour tout le contraire, pour que les conflits en Israël ne se multiplient pas. Et qu'est-ce qu'il avait dévoilé? Que ce grand deuil dont parlait par allusion le prophète Zacharie, c'est quand on prendra conscience du deuil de chacun de ces deux rois, alors qu'ils étaient apparus dans l'histoire comme séparés radicalement l'un de l'autre. Ve apetah ha-sikhli Yarchir Adéot, cette ouverture intellectuelle, appropriera Yarchir, c'est pas rendre cachère ici, c'est Yarchir. Oui, Yarchir, vous avez compris. Adéot, les opinions, les bakesh etzot, de chercher des moyens, Ech la lechet beikvot shte achanot, comment suivre ces deux tendances à la fois, chez shte nechutzot, car les deux sont nécessaires.
Ah, elle n'est pas là.
Ça ne fait rien, ça nous donne de
l'intérêt. Oui, mais il faut nous donner la réponse.
Regarde.
Bien, j'ai eu la réponse grâce à Monsieur Chétrit du restaurant, qui m'a trouvé le livre qu'il fallait. Alors voilà, la mère de David s'appelle Nitzevet Bat Adael. Si ça vous dit quelque chose. Nitzevet Bat Adael, descendant de Betzalel Ben Uri Ben Hur. Oui, descendant de Betzalel Ben Uri Ben Hur, de la tribu de Juda aussi. Oui, oui. Et là. La référence se trouve dans Baba Batra 91a. Et on doit apporter les textes, vous les aurez tout de suite. Hein? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'étudier la question, mais je vous ai donné moi cette référence. Au prochain séminaire, je verrai ce qui se passe entre temps. Et vous m'expliquerez d'ailleurs pourquoi vous êtes tellement intrigué par les mères et les pères. Bien, en attendant que les feuilles arrivent, et nous allons reprendre le dernier paragraphe du texte, j'ai aussi une question qui m'a été posée par écrit à la fin du... Oui, d'accord. Alors ça, nous allons commencer par là. Et voilà, on m'a demandé si l'expression ou la formule « le bœuf et l'âne » qui se trouve donc à propos de la crèche dans les évangiles a une interprétation du point de vue juif. C'est à peu près cela, oui. Ou disons biblique ou hébraïque. Alors écoutez, je vous avoue que je ne connais pas en détail l'interprétation chrétienne elle-même. Peut-être nous pourrions commencer par là, si quelqu'un peut la citer, s'il la connaît.
Le plus généralement, oui. On allègue le verset de l'Écriture française que le bœuf connaît son maître et l'âne.
Ah, très bien, c'est ce que je lui dis.
C'est ce que je
bon, et vous avez un verset dans Isaïe qui dit Yadav shor konehu vahamor rebus be'alav, qui signifie le bœuf connaît son maître. Et le sait reconnaître son maître, et l'âne sait reconnaître la mangeoire de son étable.
Il est plus primitif, il connaît au moins cela.
Oui. Le verset suit, alors que mon peuple ne me reconnaît même pas, vous connaissez la suite. Okay. Mais malgré tout, je vais vous citer une explication, un enseignement à ce sujet du Périt Tzadik, qui est une des références de nos maîtres. Et je ne pourrais pas vous donner la page parce que je n'ai pas mes livres ici, mais. Cet enseignement se trouve dans un des livres du Périt Tzadik qui s'appelle le Tzidkat HaTzadik. Et petite introduction pour parler très très brièvement d'un problème qui apparemment ressemble à un problème de totémisme. C'est pas vraiment du totémisme dans le sens classique du terme, mais vous savez que dans beaucoup de passages bibliques, une certaine identification typologique de certaines manières d'être homme sont désignées par des dénominations d'animaux, c'est-à-dire de la manière d'être vivant chez les animaux. Par exemple, l'exemple classique, c'est dans les bénédictions de Jacob à ses enfants, où il leur donne pratiquement à chacun un totem, si j'ose dire. Vous connaissez ce texte, dans la fin de Parasha de Vaïchi, où par exemple, Judas est comparé à un lion, d'où le lion de Judas, etc. Je vous signale en passant, si vous vous intéressez à ce problème, chaque fois que dans l'ère de l'exil, les Juifs ont dû parler des langues étrangères, alors ils ont essayé de trouver des prénoms dans la langue du pays qui correspondaient d'une manière ou d'une autre à une traduction possible du nom hébreu. Parce qu'il y a eu des temps où c'était extrêmement gênant, par exemple à l'école. L'instituteur demande comment toi tu t'appelles. Imaginez un petit juif qui doit répondre Judas. C'était mon cas, d'ailleurs, puisque je m'appelle Yehuda. Depuis assez longtemps, on a cherché des équivalences. Alors, c'est la raison pour laquelle en français je m'appelle Léon, tout simplement parce que ma famille, une branche de ma famille d'origine espagnole, et que Yehuda se disait Léon en espagnol, d'où Léon en français. Mais parfois, on ne trouvait pas d'analogie. Et je vous dis ça en passant parce qu'on a un peu de temps aujourd'hui. Et par exemple, dans beaucoup de familles, Moshe se traduisait par Maurice. Tout simplement parce que Moïse commence par M et que Maurice aussi.
Alors de ces... Abraham, on m'a appelé Albert.
Albert aussi, c'était très court. Et énormément de choses de ce genre. Et vous devinez qu'en Israël, le problème est résolu. Et... merci. Voilà, nous avons les textes. Dans tous les cas, pour citer cette typologie de l'âne et le bœuf, du point de vue de cette correspondance des identités exprimées par des thèmes d'identité au niveau de la vie animale, alors je vous donnerai deux postulats de lecture que rappelle le Périt Tzadik, et ensuite je vous donnerai l'enseignement du Périt Tzadik. C'est que Ésaü et Jacob ont à peu près la même totalisation, c'est Chor. Chor, ça veut dire le bœuf. Mais ceux d'entre vous, par exemple, qui ont étudié la législation concernant les dégâts qu'un animal devenu vicieux peut causer, savent qu'il y a une différence entre Chor Tam, un bœuf paisible, et Chor Naga, un bœuf devenu vicieux et qui charge Naga. Okay. Et alors, la typologie du Midrash attribue Chor Naga à Ésaü et Chor Tam à Jacob. Mais cette identification de Chor passe de Jacob à Joseph. Retenez bien cela. Bechor, Choro, Hadar, Lo, ça passe à Joseph. Tam, c'est Jacob. Yaakov, Vish, Tam, Yoshev, Ohalim. Donc, les précisions, c'est une précision supplémentaire pour les Hébraïs. Alors que nous savons d'autre part que l'identification par le Hamor, par l'âne, c'est l'Égypte. Et il y a aussi une indication de la divinité de l'Égypte qui est indiquée par le bélier, Haïl. Mais la plupart du temps, lorsque le Midrash utilise cette identification apparemment totémique, chaque fois que vous avez Hamor, ça renvoie à l'Égypte. C'est pas parce que c'est pas au niveau de la signification de l'âne, mais, disons, de l'identification du comportement de la vie à travers cette espèce animale qui s'appelle Hamor en hébreu, dans le sens de Homer, Homriut, la matérialité. Par exemple, je vous cite un verset que je ne traduirai pas, mais pour ceux qui ont déjà un peu d'érudition à ce sujet, « Ki besar hamorim besaram, bezirmat susim zirmatam » C'est un verset des prophètes qui est attribué à l'Égypte. Or, je commencerai par un Midrash, et ensuite nous arriverons au Périt Tzadik, qui dit ceci, que une des explications qui ont été données, il y en a d'autres, et chacune a sa signification, pour laquelle Jacob ne voulait pas être enterré en Égypte, et avait demandé à Joseph que l'on ramène son corps en Eretz Israël, promesse que Joseph lui-même fera faire de nouveau à ses frères, pour vous rappeler du texte, une des explications du Midrash, c'est que cette civilisation de l'Égypte avait l'habitude de diviniser les grands hommes qu'elle avait reconnus ou dont elle avait diagnostiqué l'importance à travers son histoire. Et le Midrash va nous dire très précisément, Jacob ne voulait pas être destiné à devenir, après sa mort, une idole de l'Égypte. Et ce thème est d'autant plus développé à travers l'identité de Joseph, qui avait été, à une certaine époque, diagnostiqué par l'Égypte comme un sauveur candidat à être divinisé d'une certaine manière. Le thème qu'il y a là est important. Les civilisations qu'Israël traverse risquent de tomber dans cette idolâtrie qui nous coûte très cher, le peuple d'Israël, de diviniser les traces de fécondation qu'Israël a laissées dans telle ou telle civilisation. Vous voyez, je vous laisse vous-même faire les analogies, les diagnostics d'analogie. Et le Midrash dit que Jacob a fait le raisonnement suivant. D'autre part, Jacob est nommé, dans les versets, l'agneau. C'est en hébreu, Simhe. Par exemple, dans le verset, C'est Pesoura Yaakov. C'est Pesoura Yaakov. Ça veut dire Jacob est destiné à être un agneau ou un troupeau d'agneaux dispersé. C'est Pesoura.
Tu veux dire un mot? pour les gens, pour le voyage.
Quel est le rapport, une relation entre l'Égypte et le bœuf à pisse, il y a un rapport avec la religion.
Je veux dire, au niveau de la religion égyptienne, il y a eu toute une série d'identifications à travers les signes du zodiaque, des divinités reconnues, en tel ou tel temps. Parfois il y avait des schismes, parfois il y avait des retours anachroniques du taureau après le bélier, bien que le taureau soit, par exemple. Mais ceci étant très schématique. Non, je reprends les versets, et voilà ce que le Midrash dit pour expliquer pourquoi Jacob, et sous quelle forme, ne voulant pas risquer d'être, après sa mort, une divinité de l'Égypte, avait demandé donc à son fils et à ses fils de ramener son doigt. Et on comprend que, à cette époque, il y avait un prestige de l'identité hébraïque, tant que Jacob était présent personnellement, physiquement, qui fait que, quelle que soit la tentation de la civilisation égyptienne, et à travers le pharaon lui-même, du temps de Jacob et Joseph, de ne pas laisser partir cette chose précieuse que pouvait être pour leur culte la momie de Jacob. Ils l'ont quand même laissé partir. Et le Midrash utilise ce verset, « C'est Pesoura Yaakov », que Jacob est désigné comme étant l'agneau. Vous avez beaucoup de thèmes dans les prophéties que l'histoire d'Israël en tant que Jacob. Jacob est le nom d'Israël dans l'exil, d'ailleurs, un autre thème, mais que certains d'entre vous ont étudié. C'est cette histoire du danger d'une, je dirais en français, une brebis, disons un agneau, au milieu d'un troupeau de loups. Vous avez très souvent cette image. Et il y a une disposition de la Torah, que les premiers-nés du troupeau devaient être consacrés. Et pour les animaux, disons, purs, cachers, il n'y a pas de problème. Il suffit que l'individu de l'animal qui est premier-né soit parfait, n'ait pas de défaut, pour qu'il puisse effectivement être consacré au service du temple. S'il avait un défaut, on lui substituait un animal, une tmoura en hébreu, un animal de la même espèce, mais qui n'aurait pas eu de défaut. Mais il y a un cas particulier. C'est que pas seulement les premiers-nés des animaux purs étaient consacrés au temple, mais aussi les premiers-nés de l'âne. Bechor Hamor, aussi. Or, le premier-né de l'âne, puisque l'âne n'est pas un animal pur, ne pouvait pas être directement consacré au temple. Alors on rachetait le premier-né de l'âne par un premier-né de l'agneau. Et Bechor Hamor, Tifde Bessé. Et au niveau du... Vous devinez déjà la suite du Midrash, le raisonnement de Jacob est ceci, il ne voulait pas être la victime sacrifice propitiatoire, il ne s'agit pas d'expiatoire, mais de propitiatoire, en tant que Bechor du C, pour le Bechor du Hamor, qui est l'Égypte. Vous suivez ? Voilà un exemple de l'identification de l'Égypte par Hamor et de Esaü par Chor. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fin de compte, l'histoire d'Israël va être confrontée systématiquement à ce qu'est la civilisation de l'Égypte du temps en chaque temps, et à travers une rivalité permanente qui est la rivalité de la typologie Esaü avec la typologie Jacob-Israël. Et c'est là que j'aborde l'enseignement du Peretz Tzadik. Les moments les plus dangereux de cette rivalité, c'est quand il y a alliance entre le Chor et le Hamor contre Israël, avec ce que Chor et Hamor désignent du point de vue de cette typologie. Et voilà comment le Peretz Tzadik enseigne. Numérique 6 et le milieu de Hamor
qui est même bas, qui a combat la numérique 46, entier, qui est la valeur numérique du mot Kelev, qui signifie le chien. Or, le chien, c'est la typologie de Amalek. Ce qui signifie que lorsqu'il y a alliance entre Shor et Hamor, ce qu'il y a dans le Shor et dans le Hamor se dévoile, et c'est Amalek qui est le comble de l'antagonisme. Alors, entre le bœuf et l'âne, c'est toujours dangereux. De là est sorti Amalek. Parce que cela indique, ce sont des niveaux de lecture de l'hébreu auxquels on n'est pas habitué dans le séminaire, cela indique que ce qui est impliqué, la connotation intérieure, se dévoile, ce qui est en potentiel se dévoile, et c'est transcrit au niveau de la langue par ce procédé. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, maintenant pour revenir au thème de l'évangile, si les rédacteurs des évangiles ont voulu laisser aussi cela comme clé, ce serait terrible comme message. En tout cas, si nous avions à lire cette expression « entre le bœuf et l'âne » à la manière de la tradition hébraïque, ça désigne que lorsqu'il y a alliance entre le bœuf et l'âne et ce que cela représente, ce qu'il en sort, c'est l'antagoniste absolu d'Israël.
La méthode de divisation des lettres du milieu est habituellement utilisée.
Je vais vous dire, il y a plusieurs centaines de méthodes de lecture de l'alphabet différentes. Et on utilise la méthode qui correspond au procédé d'exposition qui est demandé par le sujet lui-même, par tel ou tel sujet. Alors ici, il s'agit d'exprimer l'identité de ce qui était en potentiel dans cette alliance entre le bœuf et l'âne lorsqu'elle se dévoile. Et si vous voulez, récapitulant, en schématisant tout cela, eh bien, il y a une rivalité d'Israël du côté de Ishmaël. Et Ishmaël, comme vous le savez, avait une mère égyptienne. Et dans l'histoire, nous sommes accompagnés par cette rivalité d'Ishmaël, traversée par cette ligne de force qui vient de la mère d'Ishmaël, qui est égyptienne. On n'y peut rien, l'histoire est comme ça. D'autre part, il y a une rivalité du côté d'Ésaü. Et nous sommes accompagnés par cette rivalité du côté des amis. Et lorsqu'il y a alliance entre les deux, alors apparaît Amalek. J'ai compris le problème. Bon, alors je ne voulais pas trop vous impressionner, parce que c'est encore plus impressionnant que ça. Mais, et ne me posez pas des questions imprudentes comme ça. Pardon ? C'est tout simplement une alliance entre le monde de l'islam et le monde de la chrétienté face à Jérusalem. Tout simplement. Les choses sont malheureusement beaucoup plus simples que ça.
Ça veut dire
que
quand ils sont pris individuellement, ils peuvent être cachés
là. Oui, à l'échelle individuelle. C'est un autre thème qui se relie au niveau de l'identification des premiers-nés. Bon, et on referme la parenthèse. Okay.
La parenthèse.
D'accord. Bien, qui n'a encore pas de texte ? Voilà, si vous voulez distribuer, faites-le.
Il y a aussi les Grecs là, qui ont voulu nous faire un tri sur le corne d'un char.
Oui, je les ai donnés là. Descend de Judas par son père, par le grand-père. Hein. C'est la descendance de Judas, Boaz. Bien. Alors nous abordons donc le dernier paragraphe. Je vous propose dans la première partie du cours d'achever cette lecture. S'il est nécessaire de rappeler des précisions de ce que nous avons appris précédemment, on le fera en cours de lecture. Simplement vous rappeler que l'équation est ma chère Ben Yosef, qui a pour vocation le fait de faire ressurgir, de ressusciter l'existence de la collectivité d'Israël au niveau de son insertion dans la vie temporelle. Et ma chère Ben David, qui a la vocation spirituelle de la transfiguration de la fin des temps, et qui a donc, du point de vue déjà de la vocation de Yehuda à l'origine par rapport à Yosef, dans le récit de l'histoire des patriarches comme base, la vocation spirituelle. Et que la problématique qui nous a été analysée, c'est que l'identité messianique désigne la convergence, l'identification, plus que la solidarité, l'identification au-delà de ces deux forces. C'est la problématique d'identité de l'homme en général mise en jeu dans l'histoire depuis les temps du premier homme, jusqu'au temps du fils de l'homme, jusqu'au temps messianique. Or, nous l'a expliqué en détail le Rav, à travers l'histoire, non seulement ces deux forces se séparent, mais elles s'opposent et elles se mutilent réciproquement dans le conflit qui les oppose tant qu'elles ne se reconnaissent pas comme étant destinées à s'unifier. Je pense qu'il suffit de rappeler ainsi, c'est beaucoup plus précis dans le détail bien entendu, mais nous aurons vu cela pendant toute la semaine. Cette problématique, ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David. Alors on arrive au dernier paragraphe. Veine, Betor, Ikba de Mashiach, Ben Yosef. Du point de vue, en tant que le moment du dévoilement du Mashiach Ben Yosef, lorsqu'il pose le talon sur terre, sur la montagne des Oliviers, si vous voulez. Et vous vous rappelez qu'en paragraphe précédent, les deux Meshichim se dévoilent à la fin des temps dans les générations que l'on appelle les générations du talon, celles qui viennent en fin de compte, Eker, Aker. Nidgala ha hezion atzionut bedoren. Donc c'est là qu'on aborde, si vous voulez, l'identification contemporaine à la fin du Vehine betor ikba de Meshiach ben Yosef nidgala hezion atzionut bedoren. Et là il y a la thèse centrale du Rav Kook, que c'est le sionisme comme il est apparu dans l'histoire en tant que mouvement politique au sein de l'histoire juive, qui représente le dévoilement de la tendance et la force Mashiach ben Yosef. Hanoté l'etzad haklali beyoter. Cette tendance qui concerne l'aspect le plus collectif de l'identité du peuple d'Israël. C'est-à-dire faire ressurgir, faire réexister concrètement ce qui, pendant 2000 ans, était entre parenthèses d'espérance, la nation d'Israël en tant que collectivité. Nous avons eu cette analyse dans les cours précédents. Il y a un niveau de nature autre entre la somme des communautés dispersées et l'entité collective de la nation comme telle. C'est cela qui apparaît par la force du Mashiach ben Yosef, nous dit le Rav ici. Et c'est l'objectif simplement définissable du sionisme en tant que mouvement politique. Mais nous avons appris dans le cours précédent comment les tenants de ce mouvement à l'origine, quelles que soient les exceptions individuelles qu'il y a pu avoir avec eux, avaient été conduits, menés, acculés à s'opposer violemment aux juifs de la Torah. Vous vous rappelez de cela? Et réciproquement. Umitzad Heschon Archaratenu Enakohot Mitahadim. Mais par le fait du manque de préparation de nous, de notre manque de préparation, ces deux forces ne s'unifient pas. Les Askil, mais révermisé, afin de comprendre intelligemment, de savoir par stratégie d'intelligence, les Askil, mais révermisé, au-delà de cette première étape, où l'entité clalite, collective d'Israël ressurgit dans les accouchements, dans la douleur et de la manière dont vous savez, lisez les journaux depuis 35 ans, okay, et au-delà de cela, Sha'er Shera Klalile Israël, on n'est pas encore arrivé au stade d'arriver à diagnostiquer, à comprendre et faire comprendre les Askil. Au-delà de ce premier stade, et Sha'er Haklali l'Israël, comment cette préparation, cette émergence à une identité nationale collective pour Israël, Eno Ki'im, n'est que Bassis le Yesodo Amiyucha, le véhicule, la base de son fondement de spécificité absolue qui est, comme nous l'avons appris, l'autre force, la Torah. Vous vous rappelez de cela? C'est-à-dire on est encore au stade, nous dit le Rav, il nous le dit il y a 50 ans, mais on n'en est pas sorti, grosso modo, où cette première étape étant apparue, elle ne comprend pas elle-même quelle est première étape d'un processus. Elle s'autonomise comme telle, et dans ce risque de s'autonomiser comme telle, apparaît ce grave danger de l'opposition systématique des deux forces. C'est un problème qui était caché, parce que c'était l'autre dimension, la dimension spirituelle, qui définissait le peuple juif de l'exil. Et bien entendu, ce peuple juif de l'exil se définissait à travers sa dimension spirituelle en tant que collectivité, en tant que clan, en tant que nation juive, mais ça s'était caché. C'était devenu, si j'ose dire, mythique. On s'y reliait mystiquement. Ce lien mystique était très concret. Lorsque les juifs disaient à travers 2000 ans, nous sommes partis d'un peuple, nous sommes une nation, ça s'appelle Israël, eh bien, c'était concret. Mais dans la réalité concrète, dans la metziout, dans la réalité pure et simple, c'était pneumatique, comme on dit en langage théologique. Comment traduire ça, pneumatique ? Spirituel, c'est pas exactement spirituel.
C'est là où le grec...
C'est là où le grec parle, vous voyez, que dès qu'on est dans l'exil, il faut parler grec. Bon. Alors là... Hein ? Non, c'était pas du vent, c'était... virtuel, très bien, je dirais plutôt virtuel. Mais ce virtuel, vous voyez qu'on ne peut plus parler, mais ce virtuel était très concret, la ferveur avec laquelle, en tout cas, jusqu'au temps de l'émancipation dont nous avons parlé hier, là, tout a changé de forme, tout a changé de figure. Mais jusqu'au temps de l'émancipation, vous pouvez lire toutes les sources de tous les livres de cette immense bibliothèque juive de ces 2000 ans, jusqu'au temps de l'émancipation. Par exemple, la phrase... la formule clé du Maharal qui revient systématiquement dans toute son œuvre, Haouma Haïsraélite, la nation d'Israël. Je ne traduis pas israélienne parce qu'au temps du Maharal, il n'y avait pas ce concept d'israélien. Mais c'est le même mot en hébreu. Pour dire la nation d'Israël, le Maharal dit Haouma Haïsraélite. Comment vous prononcez ? Israélite ou israélite ? En hébreu, je dis bien. Hein ? Israélite ou israélite ? Non, en hébreu, je dis bien. Il me semble qu'il faut dire israélite. Hein? Bon, demandez au professeur de ne pas. Et alors là, et le fait même que cette entité collective sort de la clandestinité virtuelle où elle se trouvait, existe comme fait concret sociopolitique, dévoile le problème qui était caché. Je pense que c'est suffisamment clair, puisque c'est surtout la dimension spirituelle qui était chez elle, elle-même, dans la communauté juive. Cette dimension spirituelle, elle était reliée à une dimension nationale évidente, mais évidente au niveau de la foi, évidente au niveau de l'espérance, de la mémoire qui nous reliait au temps hébraïque, et où là, il était évident concrètement que Israël, c'était premièrement une nation. Peut-être que, j'ouvre une petite parenthèse ici, j'aurais à parler un peu plus attentivement lundi soir, pour la réunion de clôture, de trois époques dans l'histoire d'Israël. Les deux premières, tout le monde est d'accord, et elles nous sont très familières. C'est la troisième qui va faire question. La première, c'est le temps hébraïque, le temps des Hébreux. Le temps si vous voulez, le témoignage historique aussi est toute la Bible. Le temps biblique, si vous voulez. Le temps des Hébreux. Or, quiconque lit la Bible comme elle est écrite se rend compte que c'est l'histoire d'une nation et non pas d'une synagogue dans le sens d'une église, d'une communauté purement spirituelle. Je pense que c'est bien clair. Toutes les sources de la tradition orale concernant tout ce que dit le texte biblique de l'identité Israël, c'est premièrement, c'est un postulat qui n'a même pas à être rappelé, mais qu'il faut rappeler à cause de ce qui fait question. C'est une nation. Ensuite, il y a eu le temps juif, le temps des juifs, qui succède au temps hébreu. La charnière entre le temps hébreu et le temps des juifs, c'est le temps déjà du premier royaume de Juda, mais surtout du deuxième, après le schisme. Et c'est d'ailleurs le mot de judéen qui finalement a donné en français le mot de juif. Ça ne s'entend pas très bien en français moderne, parce que le Dalet de Yehuda a disparu dans la traduction, si j'ose dire. Mais je peux vous citer, comme je le fais d'habitude, en espagnol, pour dire juif, on dit judío, et ça veut dire Yehudaï, c'est-à-dire judéen. Ce sont les judéens qui sont les hébreux de l'exil, on les appelle juifs. Et là, il y a plusieurs changements d'identité qui apparaissent. D'abord, et c'est considérablement important, l'arrêt de la prophétie. L'arrêt de la prophétie marque la fin du temps hébreu et le commencement du temps juif. La fin du temps de l'hébraïsme, dans le sens anthropologique que j'essaye de définir, et le commencement du judaïsme, qui fait suite. La prophétie ne s'est pas arrêtée d'un coup, elle s'est occultée. Il y a un temps de passage de Shalhei HaNevoa, un temps de rémanence, va comment dire, jusqu'à ce que finalement la capacité prophétique s'intériorise, s'occulte, avec un stade important du roi HaKodesh, qu'on ne peut pas traduire le Saint-Esprit, il faudrait le lire en grec, mais l'esprit de sainteté, qui continue d'ailleurs à inspirer les grands d'Israël, mais à l'échelle individuelle, avec des... Plus on s'éloigne, et plus, disons, moins d'évidence du roi HaKodesh, qui est ce qui restait de la Nevoa, le roi HaKodesh étant un des degrés de la Nevoa d'ailleurs. Et, oui, un premier événement d'une importance colossale. J'ouvrirai une petite parenthèse, je crois que j'en ai parlé une fois, mais c'est important pour la pédagogie traditionnelle elle-même. C'est que, dans le temps de la prophétie, dans le temps des Hébreux, eh bien, il y a évidence de dévoilement de révélation. On voit, on entend, alors on sait. Et puis tout se cache. Lorsque le temps arrive que la prophétie s'occupe, commence le temps de la foi, de la émouna. On est relié à ce dont il est parlé par la émouna, qui est le fait de savoir que quelque chose qui est caché est ce qu'elle est. Alors que le émet, la vérité, c'est le fait de percevoir que ce qui est se révèle. Mais quand ce qui est se révèle, je n'ai pas à croire, je vois. Je vous donnerai un petit exemple dans la lecture. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire, le temps de la foi commence avec les Juifs. Parce qu'au temps des Hébreux, si vous voulez, il y a aussi le problème de l'expérience, de la confiance dans ce qui se révèle, promet, précisément, puisque ça ne se réalise pas encore. Il faut avoir confiance. Et le problème de la vertu de foi, de la vertu de confiance est important. Qu'est-ce que ça veut dire que quand Dieu promet, il y a une vertu à croire qu'il accomplira? Est-ce que c'est bien clair ce que je veux dire? Les Hébreux savaient que quand Dieu promet, c'est Dieu qui promet. Parce que c'était un temps de dévoilement, de révélation, d'évidence. Il fait jour. Alors on voit. Et quelle est donc cette vertu de la foi qui consiste à faire confiance à une promesse? Mais dès qu'on ajoute que Dieu fait, on ne comprend plus où il y a la vertu. Parce que si c'est Dieu qui promet, où est la vertu de croire? Est-ce que c'est clair l'analyse, okay? Ben c'est précisément parce que c'est Dieu qui promet et que ça ne se réalise pas encore qu'il faut drôlement avoir la foi. Est-ce que vous avez compris le paradoxe qui n'en est pas un, okay? Et c'était à l'origine le mérite d'Abraham. Dieu lui dit, tu auras un enfant, mais l'enfant ne vient pas. Alors Abraham se dit, si c'est Dieu qui me dit que j'ai un enfant, mais voilà que je bats. Alors c'est pas moi Abraham. Alors en fin de compte, c'est pas non plus un paradoxe. Avoir foi que ce que Dieu m'a promis se réalisera, ça commence premièrement à avoir confiance en moi. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que pour commencer à avoir la foi, il faut évacuer le doute de soi. Et je voudrais là en profiter pour vous proposer une petite analyse qui me semble très importante. Au fond, le fléchissement de la foi dans l'histoire du judaïsme, dans l'histoire d'Israël en général, c'est pas tellement de ne plus croire que ce que Dieu a promis se réalisera. Parce que premièrement, il faudrait savoir de quoi il s'agit. Et quand quelqu'un dit « j'ai la foi, j'ai pas la foi », est-ce qu'il sait de quoi il parle? Parce qu'il s'agit d'un monde qui était dévoilé aux Hébreux, mais qui pour nous est caché, et auquel nous sommes reliés par la conduite de foi, par la conduite de confiance. Vous donnez l'image qui est plus qu'une image que donne le Midrash. La foi, c'est la relation à la vérité quand la vérité est cachée, c'est-à-dire c'est le temps de la nuit. L'évidence de vérité, c'est le temps du jour. Je vais vous donner une indication dans la liturgie. Et j'en vois qui savent à quoi je pense. c'est après le Kriyat Shema, nous avons une prière, enfin un texte de bracha, qui le matin commence par Emet, Veyatziv, Venachon, Vekayam, Veyachar, Vechoulet. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit en proclamant l'unité de Dieu et ses promesses, on enchaîne tout de suite dans une bracha qui dit tout ça c'est vrai, non seulement c'est vrai que c'est vrai, et même c'est vrai. Bon, Emet, 16 adjectifs. Le matin, Emet, Veyatziv. Le soir, on va rentrer dans la nuit. Alors on dit Emet ve'emuna. C'est vrai bien sûr, mais c'est objet de foi. Parce qu'on rentre dans la nuit, on sait que c'est là, mais c'est caché. Alors la relation la nuit, c'est la relation de Emuna. Au matin, on se réveille et on voit que, effectivement, le voile, l'écran de l'obscurité est parti. Et ce dont on nous parlait, mais qu'on n'avait jamais vu, que dans un jardin il y a des arbres, que sur les arbres il y a des fleurs, mais des feuilles, mais il y a aussi des fruits. Et que ça c'est vrai. Alors le matin, le verset qu'on dit dans la liturgie, c'est « Le hagid baboker hasdecha ve'emunatra valelot » Je reprends le verset. « Le hagid baboker hasdecha » Pour dire au matin ton chesed, et qu'il faut traduire là par ta fidélité, c'est vrai. Ce dont on nous a parlé la nuit, on l'a vu le matin. Et qui peut parler la nuit des choses qu'on verra que le lendemain matin? Ceux qui l'avaient vu la veille. C'est ça les prophètes. Ils ont vu le monde quand il faisait jour, et ils en parlent quand il fait nuit. Je pense que c'est clair. Et vous pouvez donner une autre image. Imaginez qu'il faut traverser une forêt qu'on n'a jamais traversée en pleine nuit. Alors on prend un guide. Mais qui c'est le guide? C'est pas celui qui voit dans la nuit. C'est celui qui se rappelle qu'est-ce qu'il y a qu'on ne voit pas la nuit. Alors il dit, bon, là, on passe par là. Pourquoi on passe par là? Tais-toi, tu verras demain matin. Ici, il y a une pierre. Où elle est la pierre? Je ne vois pas. Bien sûr que tu ne vois pas, moi non plus, mais je sais qu'elle est là. Ça y est, c'est clair. Et jusqu'au moment où on sort de la forêt, c'est le matin. Alors le verset, c'est « Le hagid ba boker hasdecha » afin de dire ta fidélité au matin, boker, « ve'emunatra balelot » et la foi que nous avions en toi. Mais ça veut dire la fidélité que tu nous as promise. Et au fond, c'est toi qui avais foi en nous, puisque tu nous parles. Sinon, tu aurais parlé à d'autres. C'est clair jusque-là. Ça, c'est pendant la nuit. Pour en arriver à ceci, je crois que, je ne sais pas si on en parle au dernier séminaire, mais c'est à peu près depuis ce temps-là que je suis un peu obsédé par cette idée. J'étais très frappé par une tendance dans la littérature juive contemporaine, des nouveaux philosophes et de tout ce qui va avec, par une espèce d'apologie du doute, et surtout lorsque le doute porte sur l'identité juive. Comme si être juif, ça veut dire douter d'être juif. Et ben, ça se lit en filigrane dans énormément. Vous suivez cela? Et je dirais, quand j'ai commencé un peu mes études de philosophie, j'ai rencontré Descartes, enfin, dans la bibliothèque. Et j'étais extrêmement impressionné par la précision, la clarté de la méthode avec laquelle il parle du doute en tant que méthode. Et je pense que c'est clair. Et ce qui m'a mené à découvrir une notion qui est beaucoup plus authentique de ce dont on veut parler en parlant du doute comme vertu, et qui n'est pas du tout le doute, mais la perplexité. Lorsque la conscience découvre le mystère du monde, il n'y a pas expérience de doute, il y a expérience de perplexité. Et je crois que la perplexité qui se dit « itlaptut » en hébreu moderne,